I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous. Alors avant d'aller plus loin, une petite note de service. Je ne l'avais pas en tête avant qu'on enregistre ce podcast avec William, mais notre discussion avec lui m'a donné envie de vous proposer une expérience complète en podcast à propos de la raison d'être. Tu pourras donc retrouver un podcast à partir du lien dans les notes de cet épisode ou en cherchant sur ta plateforme de podcast préférée Trouver sa raison d'être. Voilà, c'est le nom du podcast. Dès le 31 octobre, avec un épisode d'introduction à la raison d'être avec Martin Serralta, le créateur du questionnaire dont William va vous parler, et tous les jours du mois de novembre, du 1er donc au 30 novembre, avec William et Martin, on vous proposera chaque jour un nouvel épisode et une question associée. J'espère que ce podcast pourra t'aider à aller vers ta raison d'être ou ton élan de vie, comme le dit Martin. Rendez-vous donc dès le 31 octobre sur le podcast Trouver sa raison d'être et tous les jours du mois de novembre. Mais d'abord, apprenons-en plus sur le livre de William, pas plus tard que tout de suite.
Elle est fragile, cette petite raison d'être, elle est là. Et tu l'as trouvée d'ailleurs, la tienne?
Alors, tu vois, je crois que il y a un peu de ça dans ce qu'on est en train de faire là. je me sens plutôt pas mal aligné.
Bah, pour la résumer, est-ce que ça te met en joie, on dirait?
Oui,
non, mais c'est vrai. Est-ce que ça te porte? Est-ce que ça ne te, ça ne te consomme pas d'énergie?
Je crois pas du tout.
Est-ce que tu peux en vivre?
Oui.
Est-ce que tu as des retours par rapport à ce que tu fais?
Plein.
Qui dépassent tes espérances?
Plein.
Eh bien, je crois que tu as trouvé ta raison d'être.
Allez, yes! J'ai gagné! J'ai gagné au jackpot de la life, mes potes. Mais ça a mis du temps. Effectivement.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute.
J'ai chanté du Sylvie Vartan, ça ne parle plus à personne.
Je t'avoue que pourtant je ne suis pas très loin d'avoir ton âge, mais je ne l'ai pas jamais été trop Sylvie Vartan.
Ça, c'est lié au chromosome, tu ne peux pas comprendre.
On a les mêmes chromosomes, mec. Vous ne l'avez pas vu, mais il a roulé des yeux. Je suis donc avec William Régeot, qui est habituellement sympathique. Mais peut-être pas ce matin, si?
Non, j'ai une petite crève dont on me dit que ce n'est pas un Covid. Je suis sûr que c'est un Covid. Mais donc, par contre, j'ai une très belle voix de radio aujourd'hui.
Bonsoir.
Vous allez en profiter. Bonsoir, bienvenue à tous. C'est Macha. Voilà.
Pareil, Macha Meryl, je crois personne.
Non, Macha Béranger.
Pardon, putain.
T'as démarré sec.
William, tu es l'auteur de plein de livres.
C'est vrai.
Je t'avais déjà reçu dans ce podcast il y a quelques années de ça, à l'époque de mes années mademoiselle, pour parler de ton parcours, on va dire, varié, de vie. Et tu as entamé depuis quelques...
12 ans.
Oui,
12 ans.
Une deuxième vie.
De communicant.
De communicant, où tu t'es... comment dire? Tu n'avais rien à foutre là-dedans, a priori, de ta formation, etc.
C'est très bien résumé. Et je suis arrivé chez Universal Music, chez Canal+, chez Danone, et ils s'en souviennent encore, je peux te dire.
Et aujourd'hui, tu sors, il y a quelques semaines de ça, un bouquin qui s'appelle « Trouver sa raison d'être quand on n'entre pas dans les cases chez Le Duc, et qui est résumé par cette notamment magnifique photo de toi. 30 questions, un mois pour trouver sa place dans le monde. Allez, hop là! Fin de l'interview, au revoir. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce bouquin qui est dans ton 12e
11e, je crois.
11e.
C'est une formation de Martin Serralta qui a écrit les questions du livre, qui sont des vraies questions. Et Martin est un chercheur en prospective.
Waouh.
Et qui a une formation de 5 jours pour retrouver sa raison d'être, que je vous conseille vraiment. C'est pas une formation, c'est une claque dans la figure. C'est un truc de malade qui vous déboule dessus. Et Martin a écrit ces questions et je me suis dit, ça serait bien qu'on les vulgarise un petit peu et qu'on raconte ce qui vient avant et après les questions pour que ce soit plus accessible. Parce que ces questions sont quand même un peu crues. Parfois, elles te tombent dessus comme ça et tu te dis, mais mon Dieu. Donc, j'ai essayé de mettre quelques explications autour.
Bah, disons que le côté cru, ça te correspond pas mal.
Non, mais cru dans le sens, elles sont un peu, c'est pas le bon mot, elles sont un peu profondes.
Elles sont, et puis elles sont directes.
Elles sont directes, ouais.
Il y en a 30?
Il y en a 30, une par jour.
C'est vraiment un vrai objectif de te dire, ok, tu prends un carnet et tu écris les 30, et tu réponds aux 30 questions.
Oui.
Une fois par jour.
Oui, parce que tu peux pas le faire en une journée, tu vas mourir. Les questions sont tellement puissantes. C'est pas juste des questions. C'est pas un livre de bullshit développement personnel comme il y en a partout. C'est un livre écrit à la base. Les questions ont été écrites par un chercheur qui a une vraie raison puissante et scientifique à chaque fois. Et quand je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi les questions, il me parlait de Spinoza, etc. Donc je peux vous dire que moi, Spinoza, j'ai jamais lu. Mais il y avait des vraies raisons à tout ça. Et certaines ont l'air innocentes, elles le sont pas. Certaines ont l'air très très classiques, elles le sont pas du tout. Et toutes ont une utilité et qui fait que ça se révèle à soi, sa raison d'être, alors elle vous revient à vous, parce qu'elle est toujours là, elle est enfouie, mais elle est toujours là.
Tu lui demandes d'ailleurs assez régulièrement à Martin pourquoi cette question, pas forcément à toutes les questions, non. Mais à certaines où tu lui demandes, et en fait tu viens, il y a des encadrés dans lesquels tu viens poser sa réponse, quoi. Et c'est vrai que bah, le mec a taffé. Ah, globalement.
Oui. Bah, il a 45 ans, dont 30 ans de recherche sur la raison d'être, sur le bonheur, sur l'équilibre. C'est quelqu'un qui pousse de nombreux chefs d'entreprise, de dirigeants y compris des hommes politiques aussi, à aller vers du mieux, vers du bien et à se recadrer. Il pousse des entreprises, des organisations à trouver leur raison d'être aussi.
Oui, parce que globalement, une boîte aussi peut trouver sa raison d'être. C'est pas forcément que des individus, quoi.
C'est ce qu'il a fait avec Emmanuel Faber, notamment chez Danone, pendant quelques années.
Ça lui a pas trop réussi, Emmanuel
Faber.
Non,
parce qu'il y a ce qu'on appelle en face le capitalisme.
Ah oui. En gros, Emmanuel Faber, qui est le PDG qui a été le PDG pendant des années,
oui.
Qui s'est fait virer parce que Danone, sans doute, il y avait aussi ce truc de Danone était en train de prendre une voie. Peut-être un poil trop écologique et responsable ce monde par rapport au capitalisme, et donc ça venait rogner sur les dividendes et sur les intérêts des actionnaires. Quoi.
C'est ça. Mais ne t'inquiète pas, tout a été repris en main et le capitalisme est bien revenu chez Danone.
Super. Merci pour ça. Allez, bonne nuit. On va tous se coucher. Mais en revanche, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'aller explorer ? Parce que t'as fait ce travail-là, et en fait, en gros, à travers le livre, tu réponds toi aussi aux questions, ce qui permet de pouvoir, pour le lecteur, se guider. Être guidé à travers toi, tes propres réponses. C'est en plus l'occasion de parler de toi. T'adores faire ça, on va pas se mentir, William.
Je suis mon meilleur sujet. Mais c'est une introspection. Plus on est personnel, plus on est universel. Oh, qu'est-ce qui m'a donné envie ? C'est une souffrance, évidemment. J'ai pas trouvé ma raison d'être. Elle était là devant moi, devant mes yeux depuis des années. Et j'ai essayé de la chercher. Donc, en étant infirmier aux urgences, tu vois. Non. Tiens, je vais sauver les autres. Ensuite, en allant bosser pour Zazie. Tiens, je vais bosser auprès des stars. J'aurai des paillettes plein les yeux. Après, en bossant chez Universal. Tiens, je vais être rédacteur en chef dans mon musical. Non, c'était pas là non plus. À droite, à gauche, partout, je fonçais, je cherchais quelque chose. Je répondais à des offres parce qu'on est toujours venu me chercher, mais je n'arrivais jamais à rentrer dans mes frais émotionnels. À chaque fois, je payais très très cher.
Dans tes frais émotionnels,
t'as dit ? Ouais, bah parce que j'engageais des frais émotionnels très très forts. Je répondais en partie à ma raison d'être profonde, mais j'y répondais pas complètement.
Tu la donnes pas d'ailleurs, ta raison d'être ?
Non, parce qu'elle est personnelle.
C'est perso ?
Oui.
Et t'as dit que tu l'as calligraphiée ?
Oui, elle est à l'entrée de ma chambre, dans un cadre.
Ok. Et toi,
je peux juste te dire un mot qu'il y a dedans que je trouve puissant et à la fois que j'ose jamais dire, mais bon.
Okay.
Il y a le mot artiste dedans.
Ah !
Voilà.
Ok, tu veux dire notamment quelqu'un qui écrirait des livres, c'est ça ?
Je vais te citer Nicole Croisi, mais ça va pas te parler non plus. T'aurais voulu être un artiste, encore une dame que plus personne ne connaît, hélas. Ouais, il y a comme écrire des livres, mais pas que. Mais okay. Pas que. Sensibilité artistique, ouais.
Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de... Et en fait, comment tu pourrais, j'allais te dire, comment tu pourrais définir la raison d'être, profondément ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est ce qui te met en joie, c'est ce qui te meut, c'est ce qui te met en vie. C'est la définition de Spinoza. Hein. c'est quelque chose dont tu, quand tu en parles, tu t'illumines tout de suite, tu n'es plus fatigué. Tu vois, par exemple, je te parle depuis tout à l'heure, je suis plus fatigué, je suis bien, je suis en joie.
Vous l'avez pas vu 5 minutes avant, mais il était fatigué.
C'est quelque chose qui va à l'encontre de beaucoup d'angoisses des autres, de beaucoup de conseils des autres, de beaucoup de visions des autres. C'est quelque chose que tu as en toi, mais que tu n'as pas voulu forcément entendre. Et c'est quelque chose qui, en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'ikigai en japonais. Tu sais, c'est à la croisée entre le métier qu'il te faut, le métier qui te passionne, etc., etc.
Et en gros, le sens que tu donnes au monde aussi.
Exactement.
Que le monde peut te donner.
Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'une fois que tu l'as retrouvé, j'insiste bien là-dessus, on l'a perdu, on va pas la trouver. Hein. Et on n'est pas Indiana Jones en train de chercher un trésor, on est plutôt, enfin, si du coup on est un archéologue qui va retrouver son propre trésor. Et une fois qu'on la retrouve, elle nous paraît si évidente qu'on n'ose pas y croire. Et pourtant. Donc ça, ce qui m'a donné envie, c'est de dire aux gens, bah écoutez, je me suis longtemps perdu. Puis je me suis un peu retrouvé, et là, ça fait bizarre de se retrouver, d'être heureux, et d'être bien, au bon endroit.
T'as dit deux trucs. Le premier truc, c'est que t'as dit que ça allait souvent à l'encontre des autres.
Bien sûr.
Et le deuxième truc, comme ça je te le dis tout de suite, comme ça on sera deux, et je vais pas l'oublier, c'est que quand tu découvres ta raison d'être, ça te fait bizarre, et en fait t'oses pas y croire. J'aimerais bien que tu développes ces deux points, s'il te plaît.
Bah, en fait, d'abord, nos parents sont inquiets pour nous. Si tu veux être circassien, si tu veux jongler des balles sur un ballon dans un cirque, et que tu sens que c'est ta raison d'être, quand t'as 11 ans, 12 ans, ta mère va te dire, une activité périscolaire, pourquoi pas, mais hors de question que tu en vis, mon chéri, enfin, tu ne vas pas être un troubadour. Et les autres, ensuite, nos amours, nos amis, etc., mais comment, mais enfin, tu vas pas être prof dans les banlieues, mais c'est trop dur, enfin, tu vas pas être archéologue, tiens, on en parlait tout à l'heure, tu te rends compte, il y en a un sur 1 million, enfin, tu vas pas. Les angoisses des autres, les projections des autres viennent s'ajouter à mes propres angoisses et deviennent les miennes. Et donc, il y a des angoisses. Bah, moi, par exemple, ma mère était un style, donc il était hors de question que je sois prof. C'était tellement écrit, tout le monde autour de moi était prof, que je ne pouvais pas devenir prof. Or, maintenant, je suis enseignant quasiment à plein temps et formateur à plein temps. Et je kiffe ça énormément.
Qu'est-ce que tu veux dire par le fait que, comme ta mère était prof, tu pouvais pas devenir prof?
Tu sais, il y a plutôt
dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu as plutôt tendance à aller vers...
Non, il y a des valeurs qu'on acquiert par soi, puis il y a des valeurs aussi qu'on acquiert par opposition. Et on se construit aussi en opposition à certaines personnes, certaines valeurs, certains référents. C'est comme ça, c'est les valeurs, c'est les croyances. Si tu fais du coaching un jour, et je crois que tu en as déjà fait d'ailleurs avec une formidable personne, tu verras ça. Et en fait, on se construit parfois par opposition. Et donc, on se dit non, ça, c'est pas pour moi. Et puis, on a ses propres inquiétudes. Si je suis prof, je vais pas en vivre. Si je suis prof, je vais me faire harceler dans les banlieues. Si je suis prof, je vais pas être considéré par le gouvernement. Si je suis, tu vois, hop, et la machine à perdre commence à se mettre en place. Plus les peurs, plus ton chemin de vie. Et tu renies un petit peu ce que tu sentais au fond de toi. La raison d'être, c'est, je vais te raconter un exemple. Je parle dans le livre, il y a un enfant que j'ai vu danser un jour à l'anniversaire. Il avait 8 ans, on a mis du Michael Jackson, il y avait une glace dans la rue, on était dans un anniversaire dans la rue, et il dansait devant comme s'il n'y aurait jamais de demain. J'ai vu ce gamin, mais traversé, bouleversé par ça. Et sa mère disait, j'aimerais tellement qu'il aille à l'opéra, qu'il fasse une école de danse, etc. Et son père disait, ouais, mais quand même, putain, c'est un mec, quoi. Et tu vois, et voilà. Et là, je me suis dit, ah, tiens, qui va gagner? Est-ce la peur du papa? Est-ce le lâcher prise de la maman? Est-ce la puissance de l'enfant qui, pour le coup, était traversée par une force, mais il était sublime, ce gamin, quand il dansait. Sublime. Il se regardait dans la glace, il étudiait ses mouvements. Je me suis dit, toi, mon gars, t'es en plein dans ta raison d'être.
Et la suite de l'histoire, c'est...
J'en sais rien, c'était il y a un an et demi. Je m'en suis servi dans le bouquin, je vais pas te mentir. Je le souhaite, écoute, qu'il y rentre, qu'il soit un petit rat de l'Opéra de Paris ou chez Alvin Ailey, je crois, à New York. Je sais plus comment il s'appelle, je sais pas, tant pis si je me trompe. Et la deuxième question, c'était quoi? T'as vu comme je suis?
Oui, bravo. C'est moi qui l'ai oublié. Quand elle te revient, t'oses pas y croire. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Bah, quand elle revient à la raison d'être d'un coup, d'un seul, tu te dis, mais c'est pas possible que d'avoir ça devant les yeux, sous mes yeux depuis tant d'années, et que je puisse y trouver un plaisir. Moi qui ai tant cherché ailleurs. Dans cette dette émotionnelle que je me suis créée, dans tant de choses. J'ai bossé dans une grande maison de disques, j'ai bossé chez Danone, pas très loin de Faber, j'ai bossé chez Canal+, j'ai dans plein d'endroits, j'ai cherché. Et au final, je reviens au pays et je me rends compte qu'elle était là, quoi. C'est très dur, attention. Hein. C'est aussi pour ça qu'on dit aux gens, prenez le temps de réfléchir à ça. 30 jours, c'est un chemin. Parce que c'est pas forcément agréable de se rendre compte qu'on avait sous les yeux quelque chose qu'on a cherché toute une vie. Et il y en a certains qui ne le trouvent jamais. Ou pire, il y en a certains qui croient qu'ils en ont leur raison d'être, mais qui n'y sont pas.
Et pourquoi c'est pas agréable?
Parce que là, il faut faire tomber les peurs, parce qu'il faut s'accepter, parce qu'il faut accepter de poser sa raison d'être. Quand je te dis poser le mot « artiste » dans ma raison d'être, je crois bien que je viens d'un milieu et d'une région où l'artiste, c'était les autres, quoi. C'était, on associait ça à la capitale.
Tu viens du Pays Basque.
Je viens du Pays Basque, bien sûr. Donc l'artiste, je suis né dans les années 70, c'était Michou dans son cabaret, tu vois, c'était ça l'artiste. Hein. Donc imagine toutes les saloperies qu'on peut penser et dire à un enfant, mon enfant ne sera pas artiste, il ne sera pas drogué, il ne sera pas, tiens, tu vois, t'imagines. Donc évidemment que ça fait peur, parce que tu te dis, waouh, donc je dois assumer qui je suis profondément. Oui. Waouh. Eh ben, je vais essayer alors.
Quelles sont les questions qui ont été pour toi le plus, à la fois peut-être le plus éclairante, mais peut-être aussi et ou les plus difficiles à répondre?
La plus difficile de toutes, c'était quel conseil donneriez-vous absolument à votre vous de 15 ans? Martin est dur, hein, tu sais, des fois, il est dur. Et donc je lui ai dit, si tu remontes le temps, enfin je remonte le temps, voilà, imagine je parte en 86, je rencontre mon moi de 15 ans, et je lui dis, ah, dis donc, on va faire du sport, hein, parce que tu vas prendre du poids, tu vas voir. Hein. Et Martin me dit, mais t'es complètement débile, je vais pas dire ça à un ado en remontant le temps, hein. Il va te voir arriver, d'abord il va pas te croire, parce qu'il va te voir, et ensuite il va te dire, mais ah, super, t'as remonté le temps pour me dire ça. Non mais dégage quoi, t'as pas un truc un peu plus impactant à me dire? Oh putain. Je vais lui dire, it gets better, ça va mieux, ne t'inquiète pas, tu trouveras l'amour, tu vois, ouais, super. T'as pas un truc un peu plus personnel à lui dire? Je lui dis, mais tu m'emmerdes à la fin, c'est dur comme question, ah, sans rire, c'est pour ça que ça s'appelle trouver sa raison d'être. Il dit, Martin. Et du coup, j'ai trouvé ma question. Alors, il m'a un peu aidé, évidemment, il m'a poussé fortement pour que je la trouve. Ne la demande pas, je le sais plus. Et c'est pas parce que je veux pas faire le mystère, c'est parce que je trouve que c'est tellement dur. Tu sais, c'est un parcours sur lequel moi j'ai oublié certaines zones et certaines questions. Ça suffit, hein. Je me suis tapé une fois, je vais pas me taper deux. C'est bon.
Ok.
C'est mon chemin de Compostelle à moi. Je vous le dis, c'est pas un livre de bullshit personnel, un cahier de gratitude, bonjour, que je fais, hein, y a pas de problème. Là, c'est un chemin introspectif sur les pas de Spinoza et de ses copains. Voilà, écrit par un chercheur en prospective. Voilà, vous pouvez y aller en mode espadrille et t-shirt sur les épaules, ou vous pouvez y aller un peu équipé. Équipez-vous.
Est-ce que tu es en train de vendre correctement le truc? Non, c'est juste que tu...
Mais je m'en fous. Pas. Ma raison d'être, c'est pas de vendre des bouquins. Ma raison d'être, c'est d'écrire qui je suis et d'aider les autres à trouver qui ils sont.
Okay.
Si ça se vend, ça se vend pas. Qu'est-ce que je te dis? C'est que c'est plus mon problème, quoi. On n'est pas là pour vendre en permanence. On s'épuise. Il y a tellement de bouquins qui sortent, de toute façon, écoute.
Oui.
Si vous nous écoutez, je pense que si vous êtes prêt à aller sur ce chemin, lisez-le et travaillez, mais ne le lisez pas sur la plage. C'est pas un livre de plage. Hein.
Oui, clairement. Qu'est-ce que t'as... Quelles autres questions ont été compliquées pour toi ou alors éclairantes?
Quand vous sentez-vous pleinement vivant?
Ah ouais.
C'est une question qui est dure. Moi, je suis un survivant. J'ai appris à dire ça. Tu dis, enfin, ma psy m'a dit un jour, je préférais que vous employiez le mot survivant plutôt que victime. Et donc, wow. Quand on est, mais ouais, bah, j'ai une bonne psy. Hein, elle est bien. Hein,
elle est bien.
Tu sors, tu pleures. Je disais toujours quand j'allais la voir au début, c'est marrant. Je viens vous voir. J'ai l'impression d'aller chez le dentiste. Elle me dit oui, je sais. Tout le monde me trouve dur. Et ben, figure-toi que moi, je la trouvais plutôt douce. Elle me dit non, avec vous, au contraire. Enfin bon, bref, passons. Quand vous sentez-vous pleinement vivant, ben, quand t'es un survivant, ben, t'as peu de moments où tu te sens vivant, à part peut-être dans des phases d'addiction à ce que tu veux, à ton addiction préférée, ou dans des moments de violence envers toi-même ou envers les autres, et que c'est compliqué de s'en sentir pleinement vivant. Et donc, je dirais qu'avec le niveau d'amour propre qui remonte, avec les années qui font que ça va mieux, avec le chemin vers la raison d'être qui s'illumine, ben, tu te sens pleinement vivant de choses vraiment impactante pour toi. Et bon, ça parle de moi, mais un lever de soleil, un coucher de soleil, un toit terrasse dans les Pouilles avec mon amoureux, où on boit l'apéro en regardant le soleil se coucher, se réjouir du bonheur d'autrui, tu vois. C'est mon ami Eric qui m'a longtemps dit toujours, ah, il faut se réjouir du bonheur d'autrui, mais bon, quand t'es un survivant, tu te réjouis pas forcément du bonheur d'autrui, parce que t'arrives pas à te réjouir du tien. Donc là, tu vois, avoir les larmes aux yeux devant le bonheur de quelqu'un, ce qui m'était jamais arrivé, tu vois. Parce que je me sens pleinement vivant quand mon avion est annulé à l'aéroport, à Orly, et je me dis, pas de problème, il y a toujours un autre avion, t'inquiète pas. Et que je gère pas ça, tu vois, en avalant n'importe quoi, tu vois, un Mars, un Coca, un machin, ou en paniquant, en envoyant les textos à tout le monde. Je dis, mais du calme, il y a toujours un autre avion, tu vas le trouver. Donc ça, c'est une question que j'ai trouvée dure et forte, tu vois, quand vous sentez-vous pleinement vivant.
Quoi d'autre?
Quels sont vos rêves à accomplir absolument? Ça a été très très compliqué, parce que j'ai eu des faux rêves, hein, tu vois. Moi, je voulais de la paillette, hein, je voulais que ça brille, donc c'est pour ça que j'ai bossé chez Universal Music. Et une fois que tu as rencontré toutes tes stars, alors on a tous un panthéon de stars, pour toi ça sera peut-être un joueur de foot ou un grand peintre, mais pour moi c'était des chanteurs, tu vois. Et donc quand tu as rencontré Madonna, quand tu as rencontré Abba, quand j'ai rencontré Madonna, quand j'ai rencontré Abba, quand j'ai rencontré toutes les stars qui ont fait mon panthéon musical, Françoise Hardy aussi, tu te dis mais c'est quoi la suite en fait? C'est quoi mes rêves à accomplir? Et en fait on redéfinit ce que c'est qu'un rêve. C'est peut-être pas juste alors Abba, on en parle encore avec Caroline Franc, que je vais amener en Suède rencontrer Abba, on en parle encore 10 ans après, donc ça nous a marqué, mais on peut pas résumer l'accomplissement d'un rêve à serrer la main de Madonna, c'est pas possible.
Bien sûr.
Pour moi. Et donc il a fallu retrouver des rêves que j'ai, qui me restent à accomplir.
Mais c'est surtout, tu peux pas résumer un rêve à serrer la main à Madonna une fois que tu l'as fait. Parce que une fois que tu y es arrivé, t'es là, c'est quoi la suite?
Mais je suis sûr, et avoir la photo en plus pour le prouver, parce oui. que ça c'était le plus important. C'est, non seulement je l'ai fait, mais j'ai la photo. Non, c'était extrêmement compliqué. Bah, je vais te répondre, ça je peux te le dire. Un rêve à accomplir absolument, bah, me sentir en sécurité. Je me suis jamais autant senti en sécurité depuis que je n'ai plus de CDI, plus de tickets restaurant, alors que toute ma vie, je cherchais une raison d'être, tu parles, une raison de sécurité en fait, dans le CDI, dans le Graal, de l'emploi, du patron, du machin. Et j'ai pris très très cher. Et je me suis jamais senti aussi bien, aussi aligné avec moi-même, avec des trucs qui me tombent tout seul, trucs karmiques ou ce que tu veux, du hasard, appelons-le.
Tu veux dire des missions aussi, c'est ça?
Des synchronicités, du boulot, des vraies missions. Et je me suis jamais autant senti en sécurité depuis que j'accomplis ma raison d'être. Et donc ça, c'est un rêve qui arrive devant moi. C'est me sentir le matin à ma place, en fait. Incroyablement à ma place. Et pas à ma place avec des people, ou à ma place à la télé, ou à ma place dans une maison d'édition, tu vois, c'est pas ça, non, c'est pile à ma place. Je vais te donner un exemple, j'ai animé une formation il y a 3 jours avec, dans un office HLM, et dedans il y avait des gens qui étaient des gardiens, d'autres qui rangeaient les poubelles, il y avait une juriste du groupe qui allait plaider à la cour, il y avait la DRH du groupe. Et je pense que c'était intellectuellement compliqué d'animer ce groupe, mais je me suis jamais autant senti à ma place, précisément, que là. En me disant, je vais prendre soin de tout le monde et tout le monde va écouter ce que les autres ont à dire et il va se passer quelque chose. Et je suis sorti en me disant, je n'arrive pas à croire que je suis payé pour faire ça. Je n'arrive pas à croire. Je me suis dit, tu vois, là, je me sens vivant, là. Je sors, il est 17h, ma journée est finie. Tu vois, il y a une autre question, c'est quel est votre plus grand talent? Ouais, je suis en train de le vivre, mon plus grand talent, là. C'est incroyable. J'arrive à faire monter une mayonnaise avec des ingrédients qui, normalement, ne se croisent jamais, quoi. Et rêve accompli, se sentir en sécurité, qui est quand même un rêve puissant que beaucoup d'entre nous aimeraient avoir.
Et tu te sens en sécurité, mais en fait tu te sens en sécurité avant tout dans ta tête, c'est ça que tu veux dire, c'est que
pas uniquement.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Okay.
Je me sens en sécurité affective, émotionnelle, intellectuelle, matérielle aussi. Je me sens en totale sécurité. Alors que je suis à l'opposé de ce que j'avais défini comme étant le parangon de la sécurité il y a 10 ans.
Est-ce que c'était toi qui les avais définis ou c'était tes parents?
C'était
et ton
entourage? Mais c'était mon entourage, moi, mes angoisses. C'était, moi je me rappelle de ce que j'ai entendu, mais comment? Mais changer de boulot, t'es infirmier, tu te rends pas compte. Travailler dans le disque, en pleine crise du disque, mais n'importe quoi, mais t'es malade. Comment? Mais travailler chez Canal+, mais c'est tous des drogués et tout. Ce qui n'est pas totalement faux, à l'époque en tout cas. Comment? Mais travailler chez Danone, mais tu manges pas de yaourt. Enfin, tu as tous les trucs que t'entends. Écoutez, c'est votre problème, les gars, en fait. Hein.
Et quand tu t'es lancé là, à ton compte?
Qu'est-ce que j'ai ressenti quand je me suis lancé à mon compte? De l'effroi. J'avais essayé, il y a quelques années, d'ouvrir une EURL avec un comptable. Je pense que c'est la pire connerie que j'ai faite de ma vie. Moi, mon esprit se fige quand j'entends parler de l'URSSAF. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le RSI, qui a quand même poussé des gens au suicide. Hein. C'était très, très lourd.
Oui.
J'avais dit « never again ». Mais comme Sean Connery, je suis revenu faire un James Bond. Là, je me suis remis à mon compte et je me suis dit « mais en fait, c'est la solution la moins pire ». D'abord avoir des retours positifs sur quelque chose que tu as créé de A à Z est extrêmement positif, pas pour m'envoyer des fleurs mais ça fait du bien pour l'amour propre. Déjà ça te porte quoi, ça te pousse encore plus ta raison d'être, tu dis ah, j'avais raison en fait. Ensuite, se sentir émotionnellement libre, physiquement libre, évidemment aussi. En fin de journée, quand tu finis, tu te dis, mais putain, c'est pas possible. Je cherche ça toute ma vie, quoi. Tout ce que je vis, et puis voilà, toucher des chèques ou des virements qui arrivent à la fin du mois ou le mois d'après, et tu te dis, mais putain, je suis payé pour ça. Waouh, c'était donc ça. Ok. Puissant. Mais t'as un podcast sur l'argent, je pense que t'en as entendu des vertes et des pas mûres, des fausses histoires sur l'argent, les gens qui font des films et tout. Voilà, moi je pensais que si on avait un salaire qui était versé le 28 du mois, on se sentait en sécurité. Non, je pensais en amour que si on sauvait quelqu'un, on allait avoir une super longue relation. Non plus. Aime-toi toi-même, sauve-toi d'abord. Paye ton propre salaire et puis après on en reparle.
Ouais.
Ça y est, on arrive au moment de l'interview où je réponds tellement que le mec sait plus quoi dire.
Mais non, pas du tout, je te laissais finir ton thé enfin. Sois pas désagréable comme ça.
J'essaie de ne pas l'être, mais alors, c'est marrant, mais Fabrice, on est tous les deux hypersensibles.
Oui.
Ce que tu prends pour moi désagréable, c'est mon moi naturel. T'imagines si j'étais désagréable. Il y a une question qui m'avait interloqué le jour 16, c'était mes clients, mes collègues me remercient spécialement pour, et j'ai dit à Martin, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de la vie des autres? On se le bouffe toute la journée.
Ah ouais?
Et il m'a dit, mais pas du tout, au contraire, attention, mes clients, mes collègues me remercient. Il m'a dit, tu n'as pas idée à quel point les gens prennent au sérieux cette tâche quand tu leur demandes vraiment de te dire la vérité sur qui tu es et ce que tu fais. Et ils t'envoient des mails de 2 pages ou 3 pages pour t'aider, en fait. Et je me dis, est-ce que c'est une valeur quelconque? Il me fait, mais t'as pas idée. Ils te voient tel que tu es et ils voient que tu demandes de l'aide. Bon, évidemment, on n'en voit pas ça, un pervers narcissique qui va se faire un plaisir de te dégommer. Mais, et donc tu reçois un compte rendu exhaustif. J'en ai vu, moi j'ai halluciné de la richesse et de la diversité de ce que les gens pouvaient envoyer pour s'aider. Il y a des gens qui te disent des choses qu'on t'a jamais dit, quoi. Et c'est magnifique, c'est magique. Et donc là, bah ouais, il faut demander. Donc c'est le jour 16, tu vois, ça se joue. Super belle question.
Tu l'as fait, toi?
Oui, je l'ai fait.
Tu le fais?
Je l'ai fait, ouais. Ouais. Ça n'a pas été agréable, hein.
Dans quel sens?
Bah parce qu'on m'a fait des retours, on m'a trouvé ce que tu viens de dire, on m'a dit, ah, il y a des fois t'es un peu cynique, il y a des fois t'es un peu méchant, il y a des fois t'es un peu condescendant, il y a des fois t'es un peu, voilà, tu vois, tout ça, mais il y a des fois t'es lunaire aussi, t'es beau, t'es magique, genre, il y avait tout, quoi, mais il y avait les deux, tu vois. Et c'était très vrai, c'était très très vrai. Mais je pense que je suis condescendant quand je souffre, et je pense que je suis magique quand je ne souffre pas.
Ouais.
Et si je souffre, c'est que je suis dans des endroits où j'ai pas à traîner, comme Twitter, ou des gens que j'ai pas fréquentés, tu vois.
Ouais. Voilà.
Quand je suis au bon endroit avec la bonne personne, il peut y avoir que la joie de partager.
On a tous des facettes
différentes. Bien sûr, mais c'est ça qui est la beauté de l'humain.
Et c'est important d'accepter toutes ces facettes. Et effectivement, t'as une facette condescendante, t'as une facette de gros râleur. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on t'aime. J'espère que tu l'aimes, cette facette de gros râleur.
Oui, je la trouve. Écoute, on s'y fait. Puis un personnage public aussi. Voilà.
Ah ouais.
Moi, ça va. C'est 20 ans que j'écris sur Internet. William Régio, tu vois. Les habits de William Régio, tu les revais. C'est comme un chroniqueur dans une émission, tu vois. T'es un persona. Voilà. Bah, je l'accepte. Alors, je suis pas très éloigné de qui je suis. Mais souvent, je reçois des. Tu vois, c'est marrant. J'envoie une newsletter à des gens et ils me disent, ah là là, t'es triste en ce moment. Non, je suis pas triste. Je vais bien. C'est juste un ton que j'adopte. Il y a un personnage. La dernière que j'ai envoyée, je pensais à Nijardo, César, tu sais, qui disait, je ne sais pas si. J'ai beaucoup manqué au cinéma français, mais je sais que le cinéma français a beaucoup manqué. Et donc, je m'imaginais, moi, avec la... Je ne sais pas si cette newsletter t'ouvre à votre cœur, mais en tout cas, moi, j'ai essayé de trouver les mots qui vont de mon cœur au vôtre.
Je vous mettrai le lien de cette newsletter à laquelle je suis abonné depuis son début, et en fait, c'est
merci.
Vrai, tu t'écris vraiment bien.
Merci, c'est gentil. Et donc, voilà, c'est un persona, mais c'est aussi ça, quand le travail sur la raison d'être, c'est aussi de... Est-ce que je peux déposer mon persona? Attention. Aussi riche soit-il, on peut être un mec qui a tout réussi dans la vie, qui a tous les atouts de la réussite, le fric, les, je sais pas, t'imagine tout ce qu'on peut imaginer, la Ferrari, toutes les conneries virilistes qu'on nous a mis dans la tête, et en fait qui est complètement à côté de ses pompes, complètement à côté de ses pompes. Mais dans une société où on nous vend que le rêve, c'est d'être à Dubaï, de vendre des produits dégueulasses à ses followers, tu vois, de se refaire entièrement, d'avoir des tatouages, t'imagines tout ce qu'on nous montre en avant pour les gamins surtout, de vivre dans les écrans, d'être hyper connecté, d'être dans le métaverse, de etc., etc., etc. Bah c'est compliqué de trouver sa place et de se dire, mais attends, mais c'est qui je suis? Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce qui me remplit vraiment? C'est ça, on revient, qu'est-ce qui me met en joie? Moi, je me fous de ce que Apple me vend. Je te dis ça, j'ai tout ce qu'il faut, mais qu'est-ce qui me met en joie, moi? Moi, ce qui me met en joie, eh ben, par exemple, c'est de prendre un hôtel à 200 mètres de la mer, même s'il est pourri, parce que eh ben, je vais voir le soleil se lever, se coucher sur le bord de l'eau. Voilà, ça, ça me met en joie. Qu'est-ce qui me met en joie? Un restaurant qui n'est pas bruyant. Voilà, même s'il n'est pas bien noté, eh ben, j'en ai rien à foutre, c'est comme ça. Qu'est-ce qui me met en joie? Ben, c'est une soirée sous le plaid à regarder Westworld avec la personne que j'aime.
Pourtant, Westworld, c'est bof.
Ouais, mais on... qu'est-ce qui me met en joie, moi? Pas qu'est-ce que la société... Tu vois, je te donne un exemple dont je suis formateur, pas que, hein, je fais d'autres trucs, mais rien que ça, je suis en train de m'excuser. Ah non, je suis formateur, mais pas que, je fais d'autres trucs. Tu vois,
c'est vrai, c'est intéressant.
Je suis déjà en train de m'excuser. Oui, je suis aussi thérapeute de couple à côté, et je suis aussi auteur. Mais comme on est en France, t'as pas le droit de dire tout ça. Ça angoisse les autres que t'aies trop d'activité. T'en as trop, donc tu les fais pas bien. Ça aussi, garde tes angoisses pour toi, mon gars, et puis tu sais très bien de quoi je parle. Et donc, je te donne un exemple, je suis formateur et je bosse chez Chanel de temps en temps. Et on me dit, oh là là, tu bosses chez Chanel, la chance. Ouais, ben, alors c'est distant de démagogie, je suis tout aussi heureux à aller bosser avec les gens qui sont à office HLM, hein, à sortir les poubelles. Hein. C'est vraiment sincère. Sauf que j'ai mis 45 ans avant de l'accepter.
D'accepter que...
Ben, que j'étais aussi heureux. Des deux, en fait, et que c'était pas l'un des deux qui était mieux que l'autre, c'était ta vision à toi. Ah, tu bosses chez Chanel? Oui, oui, mais je bosse aussi pour d'autres personnes.
Mais tu veux dire que ça devenait de flatter l'ego, c'est ça? Que les gens viennent te dire...
Ça me rassurait, c'est que je mettais en avant.
Ok.
Là, c'était ma carte que je mettais en avant. Attention, je bosse chez Chanel, enfin, moi j'ai bossé, hein. Oui, fine, mais je fais tellement d'autres trucs à côté, c'est pas ça qui peut me... C'est pas ça qui va mettre les 5 étoiles, quoi. C'est pas ça, en fait. Je suis désolé. Ce qui met les 5 étoiles, c'est moi, quand je me lève le matin et que je suis pas en train de faire, punaise, il faut que j'aille bosser. Quel temps perdu à écouter tous ces gens, ces ordres iniques, tu vois, ces réunions qui servent à rien, ces heures perdues.
Mais oui, ça, puis
ça,
après,
ça me regarde, moi,
chacun. Oui, après, ça peut plaire à plein de gens.
Ah, absolument. Des
réunions très longues. Je ne sais pas à qui, mais bon. Si vous aimez les réunions très longues, n'hésitez pas à m'envoyer des messages.
Mais tu sais qu'il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui pour moi, par exemple la formation. Là, je te prends la thérapie de couple. Je suis en plein milieu en ce moment d'un couple qui se sépare. Ça, je peux dire que les assiettes volent émotionnellement. Il y a des gens qui fuiraient ça à des kilomètres. Mais pourquoi tu vas en fin de journée après avoir formé des gens? T'es un peu fatigué, tu vas là-dedans. Ouais, mais je me sens tellement à ma place là-dedans.
Ça te nourrit en plus, j'imagine.
Ah, t'as pas idée.
Oui.
Et les retours sont super importants. Mais c'est comme ça. Et il y a quelques années, je t'aurais dit, je peux pas être thérapeute de couple, j'ai pas fait l'école de Palo Alto. Ouais. Mais pourtant, les gens que j'aide, ils me le rendent bien. Ouais.
Je trouvais ça intéressant parce que si vous êtes assidu, auditeur, auditrice assidu de mon podcast Histoire d'Argent, il y a une question sur l'argent que je reprends dans mon podcast Histoire d'Argent, que je pose à tous mes invités. C'est le jour 22. Pour quelle chose est-ce que je dépense mon argent de façon déraisonnable selon moi, mais totalement satisfaisante, et pourquoi? Voilà, je te fais marrer.
Ah bah oui, je suis en plein dedans là. Je suis à ça de lâcher un voyage en business pour la Boston l'été prochain. Ce qui est 2000 balles quoi.
Ouais.
Alors que c'est la même durée en classe éco, c'est 500 ou 700 balles, tu vois.
Ouais.
C'est n'importe quoi. Et en plus, j'ai même pas besoin de la business à l'aller, j'ai besoin de la business au retour, c'est pendant la nuit.
C'est pour dormir et pour récupérer un peu, quoi.
Ouais, dormir, enfin, si tenté qu'on puisse dormir sur un vol de nuit, mais bon, passons. Ben voilà, je dépense mon argent pour aller à l'autre bout du monde, je mets 2000 euros dans un vol, et même si je voulais, il y a même des vols à 500 balles sur Islandair avec un... Mais non, je dépense 4 fois le prix, et ça, je trouve ça complètement déraisonnable, mais qu'est-ce que tu veux que je dise, ça me rend heureux, quoi. C'est mon petit plaisir à moi. Et donc la question, elle est intéressante. Pourquoi je dépense mon argent dans quelque chose que les autres trouvent complètement déraisonnable, mais qui, moi, me semble important? Parce que ça dit aussi, pour moi, dans quelle chose je mets de la valeur, quelle chose me nourrisse aussi en retour. Et ça ne regarde que moi. Moi, je vis avec quelqu'un qui adore les photos en noir et blanc, et qui achète des vraies photos en noir et blanc dans des galeries, et dont le prix me semble totalement déraisonnable. Je me dis toujours que si la guerre arrive, on va en vendre 3-4 pour partir à Deauville. Mais pour lui, si tu m'écoutes, chérie... Comme j'ai pas de goût, je prendrai les mauvaises, je suis sûr. Pour lui, c'est ce qu'il nourrit, quoi. C'est ce qu'il rend heureux, c'est ce qu'il porte, c'est sa raison d'être. Lui, il a besoin de se lever le matin et de voir le beau autour de lui. Et ben, d'abord, il me voit, moi.
Ouais, bonsoir.
Tu parles le matin. Et voilà. Et c'est de l'argent déraisonnable pour toi, mais c'est pour moi, je veux dire, mais pour lui, c'est super important. Et les gens, ils te répondent quoi alors quand tu leur demandes pourquoi vous dépensez de l'argent de manière déraisonnable.
Mais ça dépend vraiment des profils, et il y a des gens qui ont un rapport à l'argent qui est assez compliqué parce qu'ils ont tendance à tout garder, donc et qui sont incapables de répondre totalement. Mais normal, hein, si t'as, enfin, ça dépend vraiment de ton rapport à l'argent, quoi. Faut avoir envie de le dépenser déjà pour commencer.
Moi, je fréquente pas de gens qui ont des problèmes de dépenses d'argent parce que je pense que quand on est radin du porte-monnaie, on est radin du cœur.
Bah, tu iras écouter mon podcast, ouais. Parce qu'en fait, il y a un coach dans le premier épisode qui s'appelle Christian Junot et qui explique en fait que radin et généreux, ça ne veut strictement rien dire et qu'en fait, ça dépend vraiment des situations. Et ça dépend. En plus, il dit, tu vois, lui, il prend un truc comme une sorte d'ouverture de bras. En fait, il y a des moments où tu peux ouvrir les bras et être très généreux. Et en fait, il y a des moments où tu peux être radin selon les situations. Ou, bah, par exemple, tu vas pas avoir envie de prêter. Il prend l'exemple de son fils qui joue au casino, tu vois, et qui lui demanderait de la thune. Bah, il va lui dire, ah bah, vas-y, gros radin. Alors que lui, il dit, oh, non, moi, pour ça, j'ai pas envie. Alors que pour d'autres trucs, je suis plus ouvert, quoi.
D'accord.
Et je me reconnais bien là-dedans, tu vois, vraiment. Et je crois que c'est...
Bah, j'irai l'écouter.
Le stigmate de la radinerie, il contribue aussi au fait qu'on a un rapport compliqué avec l'argent en France, quoi.
Tu vas voir la finesse avec laquelle je vais ramener le podcast à mon propre livre.
Oui, j'espère.
Sinon, il y a la question aussi qui est très intéressante sur les trois... T'as vu, elle est passée, mais crème. Sur les trois convictions profondes dans la vie. Alors celle-là aussi, elle a été très dure à trouver. Quelles sont les trois convictions les plus profondes dans la vie ? Chaud patate.
Attends, alors c'est quelle page ?
C'est
quel jour ?
Je sais même plus, tu sais.
Alors qu'est-ce qui t'a... C'était quoi tes trois convictions ?
Mes trois convictions... écoute, je m'en souviens d'une parce que je pense que c'est la plus profonde, c'est la plus ancrée, mais... alors attends, bouge pas. Voilà, c'est ça. L'abus sexuel, physique, moral, encore plus quand il est exercé par une personne détenant une autorité sur une autre, doit être jugé systématiquement avec sévérité. Et voilà, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Ça, tu vois, c'est une conviction très profonde. Un deuxième qui est lié à mon expérience professionnelle. Chacun devrait pouvoir décider de sa propre mort en son âme et conscience. Je suis pour le droit de mourir dans la dignité, ayant accompagné des gens qui sont morus. Bonjour.
Ben là, c'est le français qui est mouru.
La question, elle est vite répondue. J'ai accompagné des gens, mais c'est bien de rire, j'allais pleurer. J'ai accompagné tant de gens qui sont morts dans une situation terrible. Et enfin, la dernière.
Ouais.
Tu vois la fatigue.
Let's go.
Seule la spiritualité permet à l'individu de comprendre, d'accepter, puis d'aimer l'absurdité de la vie. La spiritualité n'est pas la religion. Voilà, c'est mes trois convictions les plus profondes.
Qu'est-ce que tu rattaches à la spiritualité ?
La mienne, hein,
oui.
Bah, par exemple, prier.
Ok.
Voilà, je prie pour... en ce moment, j'ai une amie qui a un cancer, mais si ça va mieux, bah, je prie pour elle, par exemple. En ce moment, j'ai une amie qui a 38 ans et qui c'est pas le bon mec pour avoir son enfant, bah, je prie pour qu'elle ait la bonne personne pour avoir son enfant. Voilà, ça pour moi, c'est important. C'est une connexion au divin. Donc, par exemple, je pense que quand tu... Celui qui avait dit, ça doit être Paulo Coelho, sûrement. On est connecté à Dieu deux fois par jour, quand on voit le soleil se lever, quand on voit le soleil se coucher. Tu vois, voilà, ça, c'est une connexion au divin. Et si je peux me permettre, pour revenir sur ma première conviction, sur les abus, je suis quand même souvent condescendant quand il y a un abus. Hein.
Comment ça ?
Tu sais, bah, les abus sexuels,
oui,
je deviens condescendant et dur quand je note qu'il y a un abus de pouvoir sur quelqu'un et que...
Tu veux dire un abus quoi qu'il arrive ?
Oui, une gifle sur une compagne.
Ah.
Ouais, bah, par exemple.
Au rapport avec l'actualité, tu veux dire ?
Ou pas, au rapport en général, quand quelqu'un parle mal à quelqu'un d'autre, parce qu'il est
en position, pouvoir.
Ouais, ça c'est quelque chose, c'est une conviction qui... Quand on a du pouvoir, on doit se comporter de manière un peu plus digne quand même, parce qu'on a beaucoup de chance d'avoir du pouvoir. Et les gens qui abusent de leur pouvoir, ça me rend dingue. Et c'est là que je deviens cynique, cassant et méchant, parce que, bah, pour des raisons profondes de survivant, j'ai envie de dire, à toi, je vais te faire ta fête. Et je m'énerve rarement contre des trucs... le métro arrive en retard. Bon, écoute, c'est là. Écoute, qu'est-ce que je te dis ? Oui, je vais peut-être tweeter, même pas, je le dis plus. Mais par contre, oh, c'est pas grave, une claque dans la figure, ça n'arrive qu'une fois, faut pas comparer avec le reste. Là, on est plein dans l'actualité. Pardon ? Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez juste vous taire une seconde, aller lire des témoignages de gens, et puis revenir après pour vous excuser ? Juste platement. Éviter de parler sur les sujets que vous ne connaissez pas. Ah oui, effectivement, tu vois, je suis condescendant là. Parce que j'évite. Bref, on va rentrer sur des sujets qui me font bouillir, mais la raison d'être, elle est là aussi, tu vois. Ça, c'est mon prochain livre, il est là, c'est sur ce sujet-là. Je vais écrire là-dessus.
Sur l'abus ? Sur les abus ? Sur la position de,
ouais.
de pouvoir
ouais,
sur
ouais,
les abus
bah,
de pouvoir.
Je pense que c'est une des thématiques de mon œuvre. Ouais. Après, c'est la résilience, mais il y a aussi l'abus. Mais là, le prochain sera dédié à ça, ouais.
Ouais. Ok. Il y a une forme de l'injustice aussi qui te fait vriller.
Ah bon ?
Non ? Bah pour le coup, souvent, les abus, c'est aussi des formes d'injustice.
Je ne supporte pas que... Enfin, moi, je crois vraiment à ce qui est écrit sur le fronton de l'Amérique, quoi. Mmh. Je te jure, liberté, égalité, fraternité. J'ai vu l'autre jour un témoignage d'un jeune prof qui disait, quand il avait changé son prénom de Mohamed en Jean-François, soudain, on lui avait demandé son CV. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Qu'une couleur de peau, qu'un prénom, que n'importe quoi puisse te faire passer derrière, en fait. Oh, mais ça me rend, mais t'as pas idée. Je surréagis à chaque fois, j'arrive, je fais pardon. Mais c'est parce que ça aussi, voilà, j'ai vécu ça. Hein. Je me rappelle un jour, j'étais infirmier, donc j'étais dans le placard, complètement homosexuel en province dans le placard. Une surveillante m'avait dit, monsieur, les gens comme vous, ça salit le métier. Du haut de sa surveillante, là, tu vois, de 50 ans, sur un petit mec de 21 ans, qui voulait. Moi, je voulais mourir après avoir entendu ça, tu vois. Je voulais mourir, quoi. Hein, et ben, tu rentres chez toi, et puis tu pleures, et puis voilà, ça c'est. J'entendrai ça maintenant, je lui dirai pardon. Attendez, on va s'expliquer deux minutes, là. D'où tu parles comme ça aux gens, toi ?
Il y a toute la dernière phase aussi du bouquin que j'ai adoré. Qui te met un peu en prospective. Donc il y a le fameux conseil à l'ado de 15 ans, mais il y a aussi, je trouve, le rapport au travail et le fait de s'imaginer ne plus avoir, ne plus. Alors la phrase exacte, c'est si je n'étais pas obligé de travailler, la phrase.
Ouh, tellement dur.
Il y a l'autre truc qui est si j'avais 3 mois, 10 personnes à mon service et 1 million d'euros à dépenser, à quoi les consacrerais-je ?
Super dur.
Et je fais une conférence de 45 minutes devant les Nations Unies. Ils sont obligés de m'écouter. Je leur dis quoi ?
Ah bah j'ai trouvé, hein, mais je vais encore pleurer si je le redis. Ça, les larmes vont monter. Donc tu vois, mon hypersensibilité, Jeanne Thiot, Fakin, si tu nous écoutes, mon hypersensibilité est là. Mais bah on va parler d'un sujet qui va pas me faire pleurer. Alors sur le premier, c'était.
Si je n'étais pas obligé de travailler, voilà. sur le rapport au travail.
Elle est sublime cette question. Si j'étais pas obligé de travailler, d'abord t'es là, tu te prends un peu un what the fuck. Mais comment on est obligé de travailler ? Non, pas du tout. On est obligé de travailler. Mais si je n'étais pas obligé de travailler, je suis resté dans la feuille. Et là, j'ai un mouvement de colère contre Martin. Mais comment tu oses poser des questions pareilles, quoi ? Ça remet en question tout le fondement de notre société actuelle, quoi. Et j'adore quand les écolos en ce moment parlent du fait que la décroissance, c'est ça, c'est qu'on n'est peut-être pas obligé de tous travailler 50 heures par semaine pour produire plus, mais pour produire mieux et pour tout le monde. Hein.
Je vous invite, petite parenthèse, mais à aller écouter l'épisode avec Céline Marty, et peut-être aller l'écouter toi aussi, si tu veux, sur le rapport au travail, où en fait elle dit, travailler moins pour être plus heureux. Quoi.
Oui.
Où elle dit, enlevons tous les bullshit jobs, et déjà peut-être le monde enlevons la publicité, elle est anti-pub et tout, tu vois.
Ben, je suis d'accord, tu vois, ça aussi t'amène finement à ton propre travail.
Bien sûr.
Mais c'est magique, mais elle a raison, mais la question, elle m'a révolté, moi. Comment ça, un monde où je ne devrais pas travailler, mais j'ai bâti le socle de mon existence, de ma croissance, de tout ça sur le travail, justement.
Ta personnalité.
Mais de mon prestige social, à un moment donné. Je travaille chez Universal Music, dans une maison de disques. T'imagines, n'importe quoi. Ceci dit, c'était vrai, parce que en face, j'avais beaucoup d'amis à ce moment-là. Hein, tu vois, j'ai jamais eu autant d'amis que quand je travaillais dans une maison de disques. Hein. C'est marrant, quand je vendais des yaourts, il y avait moins de monde. Passons, la question, c'est si j'étais pas obligé de travailler, mais l'angoisse que ça a suscité. Mais qu'est-ce que je ferais de ma vie si j'étais pas obligé de travailler, tu vois ? Oh, mon Dieu ! Mon Dieu ! Mais je peux pas, je refuse cette question. Donc j'ai dû trouver le cheminement, et c'est ça, le travail de Martin est intéressant. Derrière ce cheminement, il se dénoue quelque chose qui arrive à la résolution que je vous laisse lire dans le bouquin. Si j'étais pas obligé de travailler, je ferais quelque chose d'autre. Et ça m'a apaisé d'arriver à trouver ça. Parce qu'en fait, personne ne m'avait jamais posé cette question. Je me dis, dans la vie, je trouve que les questions de Martin sont intéressantes, c'est des questions qu'on se pose rarement entre nous. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de les répondre, il faut prendre le temps vraiment de les laisser mûrir, il faut prendre le temps d'être... choqué par certaines, de déconstruire aussi certaines choses de la manière dont on nous a mis des idées préconçues dans la tête. Et c'est pas évident, hein. À nouveau, tu vas me dire que je le vends mal, mais c'est pas un roman de plage.
C'est un bouquin
d'accompagnement.
Je dis pas que tu le vends mal, je dis juste qu'en fait, t'es en train de vendre ce que c'est-à-dire juste ça te secoue les puces, quoi, tu vois.
Oui.
T'as pas trop le choix de, si tu te lances là-dedans, il faut y aller, quoi. Il faut y aller à fond.
Mais je trouve que, vraiment, Martin Serralta, je vous conseille de suivre ce mec. Alors, il poste très très peu, et d'écouter ce qu'il fait, ou d'aller voir, prenez sa formation. En plus, elle coûte rien du tout. Il est très mauvais marketeur, le pauvre. Elle est géniale, mais ce type, bouscule, en fait, beaucoup de choses. D'idées reçues sur qui nous sommes. Et moi, j'adore comment il m'a expliqué, tu vois, j'étais dans une histoire d'amour que je démarrais, et puis, j'avais peur que ça marche pas, et puis il me disait, mais exprime ton besoin. Je me dis, quoi, mon besoin? Bah, exprime ton besoin. Et donc il m'a expliqué la communication non violente, sur exprimer l'expression du besoin en quelques mots. Je dis, ah, mais c'est pas aussi con que ça, j'exprime mon besoin. Dis-lui, exprime ton besoin. Et bam, ça a déclenché le truc. Et Martin a cette puissance-là dans ses questions, dans le bouquin, d'amener à une question qui a l'air totalement anodine, mais qui va déclencher des choses en cascade. D'où l'importance, et ça on ne l'a pas parlé depuis le début, mais d'écrire. En fait, c'est aussi ça.
Oui.
Je pose la question, mais et moi j'y crois beaucoup à ça, j'écris. J'écris pas sur un clavier dans le dial, j'écris avec un stylo, sur un cahier qui est à moi. Et j'écris jusqu'à ce que ça me fasse mal au doigt pour répondre à ma question. Et là j'insiste, c'est pas un truc qu'on fait sur Google Drive, sur un clavier.
Ouais.
C'est vraiment une écriture manuscrite. Là,
il y a un truc de connexion entre le cerveau,
le cerveau gauche, cerveau droit, mais ouais. Absolument, on est sur le côté, j'ai appris à lire, à écrire quand j'avais un certain âge, donc je suis reconnecté à mon moi quand il y avait 6, 8, 10 ans. J'écris pas à la même vitesse, j'écris pas avec la c'est compliqué de réécrire au stylo, mais j'ai une connexion. C'est comme si je me faisais un vrai chèque à moi-même, en fait. Il y a une connexion mystique, ou à qui tu veux, ou à qui tu crois. J'écris, donc la réponse, déjà je l'ancre pour moi. Je pense qu'au niveau synaptique, je sais pas comment on dit, neuronal, en tout cas, il se passe des choses. Mmh. Je l'ancre dans une réalité qui fait que je crée un nouvel imaginaire. Je pense que si Martin écoute, il serait d'accord avec ça, je crois. Et j'insiste, il faut écrire, en fait, ce bouquin, on lit les questions et on écrit au stylo ensuite sur son cahier.
Écoute, voilà, j'ai lu ton bouquin cet été et je me suis dit, ok, il faut que je prenne un mois pour le faire.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu veux dire?
Eh ben, je veux dire pour toi quand
Ah non, je l'ai pas encore fait justement. J'allais te dire, j'ai lu le bouquin et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse l'exercice en fait, parce que je réfléchissais un petit peu en lisant ton livre, à ce que je pourrais répondre moi si j'y étais. Et je trouve que, alors ça parle d'ikigai, hein, et oui. Je trouve que au-delà de trouver sa raison d'être, il y a un vrai sujet qui est aussi en filigrane par rapport à tout ça, c'est trouver sa place.
Complètement.
Et c'est un vrai. Je trouve que c'est un vrai problème sociétal post-Covid, où on a eu pendant un an la planète qui s'est arrêtée, où je vois des tas de gens autour de moi qui sont complètement perdus parce que, à un moment donné, ce coup d'arrêt là, du jour au lendemain, les a obligés à se repositionner, à aller chercher. Et y a plein de gens qui se sont mis en route, mais il y en a aussi plein qui sont là, qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi.
Et je rajouterai un truc, trouver sa raison d'être quand on entre très bien dans les cases aussi. Parce que je reviens à cela, sur la construction que j'ai de ce qui est normal pour moi, de ce qui me rend heureux. Ça se trouve, à 40, 50 ans, 60 ans, j'explose, j'implose, je suis pas cette personne-là, en fait. Alors, l'éduc est spécialisé dans le développement personnel, dans l'hypersensibilité, etc. Mais Martin c'est pas du tout cet angle-là, c'est trouver sa raison d'être, point. Quand on n'entre pas dans les cases, fine, ok, on le prend, mais quand on y entre, très bien aussi. Parce qu'on a tous droit à un questionnement personnel, tous droit à se dire, mais attends, je suis la bonne personne au bon endroit là? Est-ce que je pourrais pas être un tout petit peu mieux? Et j'aimerais conclure sur cette phrase que j'ai entendue cette semaine, on n'est pas là pour faire bien, on est là pour faire mieux. Tu vois, bon? Oui. Parce que les gens qui veulent faire bien, ils y arrivent pas, alors que les gens qui veulent faire mieux, one step at a time. T'as vu?
Pas mal.
C'est un diététicien qui m'a dit ça cette semaine. J'ai dit ok, on n'est pas là pour faire bien, on est là pour faire mieux, ok. Bah c'est ça, le bouquin c'est ça.
Progresser petit à petit, quoi, et puis ouais. À son rythme et sans.
Ouais.
Et surtout, j'ai un peu l'impression qu'il y a aussi ce truc de. Sans se foutre la pression, quoi. Parce que se lâcher un peu la grappe.
Mais tu peux pas te foutre la pression pour retrouver ta raison d'être. Parce que elle est là, elle est tellement fragile, elle est tellement devant toi, c'est une petite orchidée que t'as, qu'elle va pas apparaître. C'est comme essayer de retrouver un fantôme avec une lampe de poche et puis une équipe de TFX qui filme, tu sais, ces émissions sur les fantômes. Ça marchera pas comme ça. Le fantôme apparaîtra quand tout le monde se sera barré. Elle est fragile, cette petite raison d'être, elle est là. Et tu l'as trouvée d'ailleurs, la tienne?
Alors, tu vois, je crois qu'il y a un peu de ça dans ce qu'on est en train de faire là. Je me sens plutôt pas mal aligné.
Bah pour la résumer, est-ce que ça te met en joie? On dirait.
Oui,
c'est ouf. Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça te porte? Est-ce que ça ne te, ça ne te consomme pas d'énergie?
Je crois pas du tout.
Est-ce que tu peux en vivre?
Oui.
Est-ce que tu as des retours par rapport à ce que tu fais qui dépasse tes espérances?
Plein.
Eh bien, je crois que tu as trouvé ta raison d'être.
Allez, yes, j'ai gagné. J'ai gagné au jackpot de la life, mes potes. Mais ça a mis du temps, effectivement. Et en fait, ça passe surtout et surtout par un travail d'introspection. Et c'est vrai que j'avais pas ton bouquin à l'époque, mais c'est passé par beaucoup de thérapie, et c'est passé par beaucoup s'écouter, et c'est passé par beaucoup réussir à dire non à des choses que tu veux pas. Et en fait, je sens là, tu vois, de temps en temps, j'ai des choses qui m'appellent, où en fait je sens bien que je pourrais y aller, mais pour des mauvaises raisons, tu sais, ou pour des raisons
du passé
effectivement, ou des raisons qui seraient purement, par exemple, financières, tu vois, et que oui. Ça c'est, je sais pertinemment que ça va me faire marrer pendant une semaine, et en fait au bout d'un moment je serais là, mais l'argent n'est pas mon moteur, donc pourquoi faire. C'est très important d'en gagner, hein, je dis pas le contraire. Franchement, allez écouter mon podcast Histoire d'argent, c'est trop intéressant. Mais en attendant, l'important, c'est surtout, en fait, l'un des trucs que dit Christian Junot, c'est que on peut toujours récupérer de l'argent, on peut jamais récupérer du temps. Et pour moi, on a vraiment un truc dingue, c'est qu'en fait, on a un temps limité sur cette planète. Qu'est-ce qu'on décide d'en faire, quoi?
Tu vas nous plomber l'ambiance.
Non, mais c'est vrai. En plus, pour moi, c'est pas du tout plombant. Pourquoi tu le vois comme plombant?
Parce que j'arrive à 50 ans et que je comprends ce que c'est que la finitude et que je me dis que j'ai peut-être pas fait les bons choix par moment et que c'est dur de pas avoir de regrets. Et donc du coup, c'est encore plus, je dirais, puissant et nostalgique de kiffer autant ce qu'on est en train de faire en se disant, mon Dieu, si j'avais su il y a 20 ans.
Ouais.
Tout en se disant, mais de toute façon, tu ne peux être à ta place maintenant que parce que tu as vécu tous ces faux pas juste avant.
Exactement.
Toutes ces aventures. Donc on peut pas rejouer le film. C'est pas possible.
Je me suis retrouvé dans une formation avec une dame qui avait un certain âge, quoi, je dirais entre 65 et 70 ans, et qui était en train, je crois vraiment que la formation l'avait ouverte en deux, vraiment littéralement. Elle était là, wow, pourquoi j'ai pas découvert ça plus tôt et tout. Et le gars lui a répondu un truc génial, il lui dit, écoute, si te reste 5, 10, 15 ans ou 20 ans à venir, autant à vivre, autant que ce soit des années de lumière plutôt que des années sombres, en fait. Et j'ai trouvé ça, je dis, effectivement, en fait. Et je trouve ça tellement rassurant, en fait, plutôt que de regarder en arrière et de te dire, écoute, putain, merde, j'aurais pu y aller plus tôt et tout, de te dire, en fait, les années qui me restent vont être plus sympas et plus sereines et plus cool.
C'est ce que nous disent les grands artistes, hein, ils veulent pas parler de leur carrière, hein, ils sont très agacés. Bob Dylan, tu lui feras jamais parler de ça. Madonna, jusqu'à il y a peu, ne parlait pas de ce qu'elle faisait avant. Et c'est pareil pour Hockney, ça les saoule, les rétrospectives. C'est regarder devant, ce qui est the best is yet to come, comme chantait le poète, c'est ça.
Exactement.
La nostalgie, ça sert à rien. C'est un poison qui a un très bon goût, en fait, mais ça sert à rien.
Voilà. J'ai appris un dernier truc cet été, pas plus tard que cet été, c'est qu'en fait, pour construire ton futur, il faut laisser ton passé dans le passé. Et ça m'a vraiment...
Eh bien, chers auditeurs, je crois qu'on va conclure là-dessus. Je te remercie, Fabrice.
J'adore comment tu drives mon podcast.
C'est un métier. Et tu vois, un jour, et on va vraiment conclure là-dessus, mais tu m'as dit, tu devrais faire tes propres podcasts, mais j'étais tellement terrorisé à l'idée que ça marche. Et voilà, mais ça, c'est une autre problématique. Chers auditeurs, merci. N'oubliez pas d'écouter tous les autres podcasts de Fabrice. Histoire de daron, histoire de succès, histoire de bagnole. Il y en a combien? Histoire d'argent.
Histoire de bagnole.
Mais pourquoi pas? Ne fais pas le film de
bouche.
Il y a plein de choses, ça cartonne. Et merci pour cet espace de parole, parce que j'ai quand même écouté plusieurs épisodes avant de venir, et franchement, c'est waouh, c'est du, il y a du level. Donc merci.
Merci d'être venu participer. Je mettrai un lien pour aller t'inscrire à cette newsletter fabuleuse que j'adore.
Oui.
C'est quoi le réseau social où les gens peuvent t'écrire le plus simplement?
J'ai pas, est-ce qu'on a envie de ça? Parce que je reçois beaucoup de messages sur LinkedIn. Vous me chopez sur LinkedIn.
Ok,
c'est plus
sur LinkedIn, je mettrai le lien.
Et ne vous étonnez pas, oui, la newsletter est payante. C'est 5€ par mois parce que ça fait 20 ans que j'écris sur Internet et je considère qu'il y a quand même des choses qui ont de la valeur. Si tout est gratuit, plus rien n'a de valeur au bout d'un moment. Donc, en ayant conscience que c'est difficile maintenant de choisir 5€ par-ci, 5€ par-là, à la fin du mois, ça fait beaucoup. Mais voilà, j'arrête de faire des choses totalement gratuites.
Bravo, William. Salut. Je croyais que t'allais dire salut, mais non.
I'll be back.
Un grand merci.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si tu as une histoire à me raconter, tu peux m'envoyer un mail. Tu retrouveras toutes les informations dans les notes de cet épisode. Si le podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux et n'oublie pas de me taguer sur @fabflorent, c'est mon compte Insta, histoire que je puisse te voir. Tu peux aussi écrire directement à mon invité. Il arrive parfois que je partage son compte Insta dans les notes de l'épisode. Ça lui fera à tous les coups, un grand plaisir. Merci beaucoup et encore pour ta fidélité. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle vie.